au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Ah, bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Mathieu, tu sais, je te pose encore la question.
Parce que j'ai quatre doigts dans ma main de gauche.
Ah, OK, quatre pouces dans ta main de gauche, peut-être.
Exactement.
Oui. Mais c'est la quatrième journée de la semaine, pourquoi pas? Alors, fais du bien, là, de se dire que c'est le fun. C'est notre jeudredi, parce qu'il n'y a pas d'émission demain. Et comme c'était le jeudredi, on a toujours nos chroniqueurs et chroniqueuses, Yvan Deslauriers et Monique Kirouac. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, Denis Martin.
Ça va bien,
bonjour,
Yvan?
Denis,
oui. Écoute, juste pour vous dire, aujourd'hui, c'est sûr que c'était encore un peu mordant en sortant ce matin, hein, parce qu'on a un petit peu des hauts et des bas, mais ça se réchauffe, hein, au Québec ce week-end. On va aller dans les doubles chiffres, mais il va pleuvoir. Donc, sud de Montréal, aujourd'hui, c'est toujours nuageux. En fait, peut-être au Québec, c'est un peu pas mal nuageux partout. Autour de zéro, moins 3 dans l'est, c'est plus froid, évidemment, dans le nord. Même situation en Ontario, où on est autour de moins 2 dans l'est et de zéro. Et il y a de la neige dans le nord de l'Ontario, à Thunder Bay, entre autres. Et puis, dans les provinces atlantiques, on est dans le même scénario qu'au Québec. Hein. On est autour de moins 2 à 2, pas seulement nuageux par endroit. Par contre, c'est encore le froid dans les provinces de l'Ouest, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. On est autour de moins 15, de la brume, il y a de tout là-bas. Et puis, c'est sûr que sur la côte ouest, bien, aujourd'hui, pour faire changement, il y a de la pluie faible à Vancouver. Je sais vraiment ce qu'ils font parfois les autres avec la pluie continuellement. Bon, alors nous, on parle de quoi aujourd'hui? Je commence avec toi, Yvan.
Nous, on va parler de... En fait, on va parler d'une personne assez extraordinaire dans le pur sens du terme, qui vit avec un cancer, mais qui continue à faire de l'activité physique de haut niveau parce que c'est une sportive avant tout. Alors, puis c'est pas la première fois que je vous parle de personnes comme ça qui réagissent de cette façon-là à la maladie en faisant des activités physiques. De très hauts efforts, de très haut niveau. Puis le message, c'est plus quand la maladie se pointe, on peut réagir à sa propre façon. Mm-hmm. On peut aller marcher, on peut aller rouler, on peut aller nager. Puis je vais vous donner l'exemple de cette sportive-là.
Oui, puis je pense à mon ancienne collègue, hein, Julie Drolet, qui a quand même eu un gros cancer du sein, puis qui a...
Aussi.
s'est battu, mais d'une façon, c'est intéressant comment parfois quand on change les idées, quand on fait de l'exercice, que ça aide à mieux subir les traitements, puis peut-être à mieux y répondre. De ton côté, Monique?
Oui, ben ayant vécu un épisode de cet ordre-là les 7 derniers mois, ça dépend, des traitements que l'on a,
oui.
Et ça dépend aussi de notre état à la base.
Oui.
Moi, j'étais très anémique. Donc, faire du sport était devenu impossible alors que je fais ça 5 jours par semaine au moins.
Ouais.
Donc, comme le disait Yvan, oui, on a des réactions et des mesures compensatoires différentes.
Tout à fait, d'une personne à l'autre. Parfois, c'est la lecture, parfois, c'est autre chose. Je suis navré d'entendre ça, Monique, je n'étais pas au courant. Alors, on espère que tu vas mieux.
Oui, je vais mieux. J'aurai un dernier test le 16 mars qui... me dira si je suis en rémission. Mais j'avais un cancer, je pourrais dire, du lymphome indolent, donc qui n'était pas agressif, qui n'allait pas se répandre dans le reste de mon corps. Mais c'est quand même un cancer du sang rare qui s'appelle la maladie de Waldenström.
Bon, ben écoute, on va se croiser les doigts
des
mains, des orteils, près de tout pour que ça fonctionne bien. Et tu vas nous parler, toi, aujourd'hui, d'un autre sujet?
Oui, certainement. Alors, on a parlé des personnes vieillissantes la semaine dernière, Denis Martin. Alors, je récidive. Cette fois, c'est un article du professeur-chercheur François Racine, qui est spécialiste de design urbain et urbanisme de l'UQAM. Il nous explique comment la ville doit repenser ou concevoir ses espaces publics pour les adapter à l'ensemble de sa population. Alors, plus spécifiquement, vous le devinez, pour faciliter les déplacements de personnes qui vieillissantes ou dont la mobilité est réduite, pour ainsi leur permettre de bien profiter sécurité des espaces publics.
Et puis, Dominique Tremblay va nous parler aujourd'hui des Jeux paralympiques à Milano Cortina, parce que ça commence officiellement demain. Et j'ai aussi une entrevue. On va parler de... en fait, vous savez que c'est une enquête pan-canadienne sur l'incapacité. Environ une personne sur 10 au pays possède une condition qui limite sa capacité de lire des imprimés traditionnels. Alors, il y a un symposium sur l'inclusion littéraire. On va en parler un peu plus tard à l'émission. Et j'aimerais juste faire un petit mot. Je dépasse mon temps, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'en parle. Je suis allé voir hier à Espace Go, Nomme-moi. C'est vraiment comme ça que ça se dit. C'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Élisabeth Sirois. Et elle met en scène Élisabeth Sirois et sa bonne grande amie, sa grande chum, Myriane Fournier et Sharon James. Dans une mise en scène absolument très épurée. Et là, je vous le dis, c'est d'Olivier Morin, j'ai la mise en scène, c'est une pièce de théâtre tellement drôle. Littéralement, je roulais par terre tellement j'ai ri. Parce que parfois, l'humour, quand ça sort, c'est pas habituel hein, d'entendre des femmes faire de ce genre d'humour. C'est assez gros, c'est assez gras, et ça remettait en question à peu près tous les dictats imposés aux femmes, que ce soit des dictats de beauté, d'habillement, de comment se comporter, de devoir être séduisante, la séduction. Et puis, je veux pas en dire trop, mais il arrive quelque chose, et puis il y a un choix terrible à faire à la fin. Et je laisse ça comme ça, mais vraiment... Il faut voir ça. Puis il faut aussi pas trop avoir les oreilles sensibles parce que, oh, il y en a une qui est très vulgaire. Et je pense qu'elle sacre comme un chartier à peu près. Un sacre, moi, je dirais, à toutes les 3 ou 4 secondes. Mais en tout cas, on va continuer en musique.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione. Che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. E chi non salta è un troppo juventino.
Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, ce genre de musique. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un petit peu de soleil. Alors, ce qu'on vient d'entendre, ça s'appelle Sara Perché Ti Amo. C'est un Stereo Act remix DJ Reback et Stereo Act. Hein? Ça fait du bien. Un petit peu d'italien, un petit peu de soleil aujourd'hui. Rapidement, aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, c'est toujours l'Iran qui retient l'attention des informations. Tous les journaux, tous les quotidiens, tous les médias en parlent. Alors, l'offensive aérienne et maritime menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran entre dans sa première semaine avec un bilan humain de plus en plus lourd. Selon les données compilées par les organisations de défense des droits humains et le Croissant Rouge iranien, les frappes sur Téhéran et d'autres centres stratégiques ont déjà causé la mort de plus de 1100 personnes, dont au moins 436 civils. Le nombre de blessés, lui, s'élève à près de 5800, alors que les services de santé locaux rapportent des dommages importants à plusieurs infrastructures médicales. Le conflit s'est simultanément étendu au Liban, où les raids israéliens sur Beyrouth et le sud du pays ont fait 72 morts et plus de 430 blessés depuis lundi. Ces bombardements ont provoqué le déplacement forcé de plus de 83 000 personnes. En représailles, Téhéran a multiplié les tirs de missiles balistiques et de drones vers Israël et les bases militaires étrangères dans le Golfe. Malgré les tentatives d'interception, des explosions ont été signalées à Jérusalem et à proximité des sites pétroliers au Koweït, accentuant la volatilité de la région. Alors au Liban, l'unité de gestion des catastrophes signale que les frappes aériennes ont touché des zones résidentielles denses, forçant les autorités à évacuer immédiatement une trentaine de localités situées au sud du fleuve Litani. Et puis dans le devoir, en visite officielle à Canberra en Australie, le premier ministre canadien Mark Carney a affirmé qu'il n'écartait pas une participation militaire du Canada au conflit qui s'intensifie actuellement au Moyen-Orient. Lors d'une conférence de presse tenue aux côtés de son homologue australien, Anthony Albanese, le chef du gouvernement a déclaré que le Canada soutiendrait ses alliés, précisant qu'une intervention ne peut jamais être exclue catégoriquement. Devant le Parlement australien, Mark Carney a plaidé pour une concertation accrue entre les puissances moyennes afin de ne pas laisser les puissances hégémoniques dicter l'ordre mondial et la sécurité internationale. Cette prise de position survient alors que le premier ministre a tempéré son appui initial aux opérations militaires dans la région. Hier, il a qualifié les frappes états-uniennes et israéliennes contre l'Iran de potentiellement contraires au droit international, tout en réitérant son souhait d'un changement de régime à Téhéran. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on pense que ça va être le fils de l'ayatollah Khamenei qui prendrait le relais. Dans un contexte de tension marquée avec le président Donald Trump, Mark Carney a profité de ce voyage diplomatique pour encourager une réduction de la dépendance économique envers les États-Unis et un renforcement de liens stratégiques avec l'Australie, notamment dans les secteurs de la défense et des minerais critiques. Le Canada et l'Australie font partie du groupe des puissances moyennes au sein du G20, un ensemble de pays dont l'influence diplomatique repose traditionnellement sur le multilatéralisme et le respect des institutions internationales. On continue avec la musique ensoleillée. Ah, une petite musique. C'est Fiesta Finale. C'est de Lucia, Cirque du Soleil. Ça me tentait de vous faire entendre un petit peu de cette musique réjouissante. Pour ceux qui ont vu le spectacle, c'est absolument fabuleux. Et puis, on va aller voir une personne fabuleuse, Yvan Deslauriers. Bonjour. Rebonjour, Yvan.
Rebonjour.
Alors, on va parler de traitement du cancer et de comment des stratégies, comment certains réussissent à mieux passer au travers parce qu'ils sont capables d'utiliser certains aspects de leur vie. Ouais, allons-y avec ça.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans le Journal de Montréal de samedi dernier, le 28 février. Ça a été écrit par Louis-Philippe Messier. Et ça s'intitule « Sportive atteinte du cancer ». Elle va courir un ultra-marathon 4 mois après une double mastectomie.
Ben voyons.
Elle a continué de courir pour garder la forme pendant sa chimiothérapie. Et à la fin, c'est le deuxième article de ce type-là que je lis en onde. Et je vais vous parler du premier article un peu à la fin s'il me reste du temps.
D'accord.
Donc, une jeune femme atteinte du cancer qui a subi l'ablation des deux seins au début du mois se prépare à courir 55 kilomètres en sentier ce printemps. Alors, Denis Martin, je ne sais pas si vous êtes un coureur normalement.
Je l'ai été. J'ai été obligé d'arrêter parce que, bon, ça a été très, très bon dans toute ma vie, mais j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, puis c'était peut-être mieux d'arrêter. Mm-hmm. Ouais, je me suis blessé au genou beaucoup, là, ça fait qu'on fait plus ça maintenant.
Alors, même en pleine forme, 55 kilomètres, c'est pas de la tarte.
Tout à fait.
Donc, c'est la jeune dame s'appelle Tulia Ulvik, elle est une Montréalaise de 33 ans, et elle dit... Je continue de courir pendant mon traitement parce que ça me donne de la vitalité et que ça m'aide à passer au travers. Sa chimiothérapie à la clinique du sein du CHUM pour combattre un cancer R2, c'est H-E-R-2. Et moi aussi, j'ai lu des articles sur la maladie qu'a eue votre consoeur, Julie Drette.
Oui.
Puis il me semble que c'était un cancer à peu près de ce type. Là aussi, là, je ne me souviens pas du nom précis. Là, mais
il y a le triple négatif. J'avoue que ça me dépasse.
Ah oui, c'est ça, le triple négatif. Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais.
Moi, jusqu'à il y a quelques semaines, je ne savais pas que les cancers avaient des noms de ce genre-là.
Mm.
Enfin. Donc, c'est un type de cancer qui est très agressif et qui a commencé en septembre dernier. Elle nous dit « Je ne sors pas si je suis KO ». Mais aussitôt que j'ai de l'énergie, je la dépense. Il faut savoir que Mme Ulvik, c'est la détentrice d'un baccalauréat en kinésiologie à l'UQAM et d'une maîtrise en physiothérapie à McGill. Et elle nous dit aussi, mes médecins approuvent mon entraînement, même si certains sont étonnés quand je leur dis que je cours des 10 kilomètres pendant ma chimio.
Mmh.
Elle ne compte pas à s'arrêter là. Tulia Ulvik est déjà inscrite aux 55 kilomètres de l'Ultra Trail Gaspésia le 19 juin. Une entraîneuse va l'aider à se préparer et une amie coureuse demeurera avec elle en cas d'urgence tout au long du trajet autour de Percé. Elle nous dit « Je n'irai pas vite ». Là, je voudrais être un petit oiseau pour voir ce que ça veut dire pour elle. Je n'irai pas vite, là, mais enfin. Je n'irai pas vite et je marcherai autant que nécessaire. Mon but sera seulement d'accomplir l'épreuve. Juste avant son diagnostic, le printemps dernier, elle venait de guider une excursion de randonnée dans les montagnes norvégiennes. Elle a alors participé à une course de 24 kilomètres en sentier sur les îles Lofoten et s'est classée 6e parmi les femmes. Elle dit « J'étais au summum de ma forme quand j'ai appris que j'avais le cancer. Après 5 mois de chimiothérapie, une double mastectomie avec curage ganglionnaire, s'est imposée. Mon cancer est hormonal, alors je prends un médicament pour me mettre en ménopause artificielle. Elle a donc des bouffées de chaleur, des sueurs et des douleurs articulaires. Je ne pensais jamais dire ça un jour, mais je m'ennuie de mes règles, confie-t-elle. une chimio ciblée pour le HER2 me sera administrée pendant encore 9 mois. Se résigne celle qui attend le feu vert de son chirurgien pour reprendre la course depuis sa double mastectomie. Elle espère pouvoir célébrer sa rémission en 2027 en retournant courir sur les îles Lofoten en Norvège. Non seulement la pratique raisonnable d'un sport pendant une chimiothérapie rend celle-ci moins pénible, mais elle améliore les probabilités de rémission et diminue les risques de récidive. Là, on parle avec le docteur Mustapha Tefe, qui est spécialiste en oncologie au CHUM. Il nous dit, les gens qui s'entraînent pendant leur traitement contre le cancer éprouvent moins de fatigue, tolèrent mieux la chimiothérapie et leur morale est meilleure. Ils ont moins d'idées noires liées au diagnostic et leur chance de survie est plus élevée. Peu importe le type de cancer, on recommande aux patients deux choses. Bouger et manger, précise celui qui se rend au travail à la course, qui cumule une vingtaine de marathons et 3 ultramarathons. Le docteur Tefe a conscience que l'immense majorité des gens malades ne courent pas des marathons. Il préconise un exercice qui convient à l'état physique de chacun. Parce que garder une bonne masse musculaire aide à traverser la chimio. Je recommande, c'est lui qui parle, même à mes patients plus limités de marcher 5 minutes d'une pièce à l'autre, matin et soir, au moins 4 fois par semaine, ou de monter et descendre 2 ou 3 marches pendant quelques minutes. Il faut éviter qu'une personne se considère comme malade et reste assise sans bouger. Les patients qui partent de zéro doivent y aller graduellement. Faire un peu d'exercice régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine, c'est mieux que d'aller faire une vingtaine de minutes d'un seul coup, puis d'être incapable de bouger ensuite. C'est ce que dit le docteur Tefe. Alors ça, c'est l'article que j'ai trouvé dans le Journal de Montréal de samedi. Ça s'appelle « Sportive atteinte du cancer ». Elle va courir un ultramarathon 4 mois après une double mastectomie. Mmh. Je vous disais tantôt en entrée que c'est la deuxième fois que je lis un article de ce genre. L'autre article que j'ai déjà lu, ça touchait la situation de Mme Shauna Burke, qui a un doctorat qui étudie l'effet justement de l'activité physique sur la maladie. Et elle-même récemment a eu un diagnostic de cancer terminal stade 4. Mmh. Et elle s'apprête à monter l'Everest le mois prochain. Mmh. Le vrai Everest, là, pas une idée qu'on se fait de sa situation. Et j'ai eu le plaisir de lui parler récemment parce qu'on prépare un balado, Francine Forget et moi, on prépare un balado où on rencontre des gens qui vivent avec, qui sont soit une limitation physique ou une maladie et qui font des choses vraiment étonnantes. Mm-hmm. Alors, c'est demain qu'on fait cet enregistrement-là. Je suis un peu fébrile face à cette situation-là. Je lui ai parlé à quelques reprises. Elle vit présentement en Angleterre. C'est une dame qui est née ici à Montréal, mais qui vit en Angleterre. Alors, je lui fais travailler son français lors de nos entrevues. Mais je m'attends à quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça va être en onde à un moment donné, probablement en avril ou en mai. Là. Mais surveillez ça, la rencontre avec Shauna Burke, qui, elle aussi... Elle est devenue son propre sujet de recherche.
Ah bon? C'est alors, quand même, hein? Ouais.
Elle est c'est une personne très, très humble et très énergique. Alors, des fois, on oublie qu'elle fait face à une maladie très importante.
Ben, puis il faut quand même le redire, parce que je pense que Monique, un peu plus tôt, l'avait bien souligné. C'est sûr que ça dépend aussi des types de cancers, ça dépend aussi des personnes, leur état de santé en général avant la maladie. Mais c'est quand même assez extraordinaire que ça démontre que on peut s'en sortir, peut-être pas de cette façon-là pour tout le monde, mais on peut s'en sortir et de ne pas lâcher. C'est un peu ça le message.
Oui, tout à fait. Ouais. Puis Je retiens aussi que votre collègue, là, Julie Drolet,
oui.
Je sais qu'elle a marché parce qu'elle sortait son chien.
Oui.
Elle se promenait avec son chien. Mais il y a aussi toutes nos facultés mentales qui sont toujours là. Et elle a fait... elle commentait l'actualité, particulièrement l'actualité aux États-Unis.
Oui.
Je la lisais régulièrement. Alors, je pense que... Puis là, je parle, puis j'ai pas vécu la situation. Là, peut-être que Monique pourrait en parler davantage. Mais on essaye de se trouver, quand on est capable, des activités qui nous font du bien, je pense.
On a besoin d'espoir dans la vie. Je ne sais pas, Yvan, tu m'avais laissé entendre que tu avais peut-être une brève ou deux. On a le temps d'y faire, là.
Oui, tout à fait. C'est dans le magazine, dans le site Espace, il y a un article où partir en mars, les sept meilleures destinations au Québec. Et j'en retiens deux en particulier. Il y a le parc national de la Gaspésie, en Gaspésie. La saison hivernale là-bas est historiquement jusqu'au mois de mai dans le parc national de la Gaspésie, du moins pour certaines activités comme la raquette ou le ski nordique. Alors, si on veut profiter des sentiers de ski de fond et de fat bike, par contre, il faut s'y rendre avant la fin de mars. C'est donc un moment de choix. Et pour loger au pied des montagnes, à même le parc, on réserve une chambre ou un chalet au gîte du Mont-Albert. Sinon, on pose son sac à dos à la célèbre auberge festive Sea Shack à Sainte-Anne-des-Monts. Et je termine un peu plus près de Montréal, à Rigaud, en Montérégie.
En revenant de Rigaud, oui.
Pour, oui, il y a une chanson célèbre. Pour une virée active et sucrée à deux pas de la métropole, c'est sur le mont Rigaud que ça se passe. On peut y combiner une balade sur les sentiers de l'escapade, soit en rando, en raquette, en fat bike ou en ski de fond, selon les humeurs de Dame Nature, et un festin des sucres à la sucrerie de la montagne. Alors, c'est une cabane traditionnelle qui sert des repas baignés de sirop depuis 1978. Sur les flancs de la montagne. On peut même y dormir au milieu des érables dans de vraies maisons d'antan. Alors, c'est peut-être une petite sortie intéressante là, avec le temps des sucres là, qui va se pointer le nez bientôt.
Ah, on a hâte. Et merci beaucoup, Yvan. On se reparle bientôt, une autre fois. Moi, je vais, la semaine prochaine, Hélène sera de retour. Merci encore. Après la pause, ça va être Monique Quiroy qui va nous parler. Et puis si vous êtes atteint... d'un cancer, courage. Hein? Courage, c'est je n'ai pas vécu ça, mais c'est un combat. C'est un combat qui n'est pas toujours facile. Alors, courage. Et puis, si on peut vous égayer votre journée un petit peu avec un LM, on est content de le faire. Donc, après la pause, Monique Kirouac. Et puis, je vous rappelle que ça va se réchauffer ce week-end un peu partout au Québec et en Ontario. À tout de suite.
Vous pouvez rejoindre. Vous écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot. Hey!
Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Tu te bats tout le temps, on dirait que t'as 8 ans, c'est pas
les cheveux blancs, mais t'auras bientôt 30 ans, faudrait que tu te réveilles. Elle me dit, tu es toujours un enfant, tu ne seras jamais grand, et moi je suis déjà vieille. Elle me dit, regarde un peu tes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, y'a de quoi se foutre en l'air. Elle me dit, oui un jour tu me tueras, mais c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime.
Et sa chanson, Elle me dit.
Oui, hein, Mika qui est un artiste qu'on dit libano-américano-britannique qui est né à Beyrouth. Je trouve qu'il y avait deux raisons pourquoi je voulais parler de lui aujourd'hui, parce qu'il est en une du magazine Fugue, parce que c'est aussi un artiste queer. Et puis, ben, justement, je pense que ça donne, c'est quand même intéressant d'en parler aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient et surtout au Liban. Puis une petite chanson qui fait du bien. On a besoin de ça. Ah, ça donne de l'énergie, Monique, hein?
Énormément.
Ah. Alors, ben justement, on a besoin d'énergie pour rendre les espaces publics accessibles, sécuritaires et attrayants pour la population qui est quand même vieillissante.
C'est ça. Alors, c'est un article qui a été rédigé par François Racine, qui est de l'UQAM, et qui a été publié dans la conversation du 25 février dernier. Alors, pour être véritablement inclusif, les espaces extérieurs accessibles au public d'une ville doivent répondre aux besoins de l'ensemble de la population, quel que soit leur âge, leur capacité physique ou leurs conditions de mobilité. Même si de nombreuses villes ont adopté des politiques d'accessibilité universelle au cours des dernières années, il faut se demander si celles-ci ont réellement amélioré l'accessibilité et la qualité de l'expérience des citoyens. Les espaces publics peuvent être source de fatigue et de stress si certaines de leurs caractéristiques ne sont pas correctement pensées. Alors, pour mieux comprendre le degré d'accessibilité des espaces publics, plusieurs champs de recherche en design urbain, urbanisme et architecture offrent des outils précieux. Trois dimensions sont particulièrement pertinentes parce qu'elles concernent directement la manière dont l'environnement bâti répond aux besoins des personnes ayant des limitations motrices, visuelles ou cognitives. Ces trois dimensions, je vous les énumère, le confort d'abord, deuxièmement la lisibilité et troisièmement la clarté géométrique. Ces dimensions permettent d'évaluer si un espace est vraiment pensé pour tous. Et on souligne pour tous.
Oui.
Alors voyons en quoi consiste la première dimension, soit celle du confort. Les études environnementalistes, s'intéressent à la façon dont les gens vivent et utilisent les espaces publics. Alors selon Jan Gehl, est un architecte et urbaniste danois, un espace adéquat pour les piétons doit offrir protection, confort et attrait. La protection assure la sécurité, par exemple grâce à des trottoirs séparés de la circulation véhiculaire ou grâce à des passages piétons bien signalés. J'ajouterais, Denis Martin, irrespectés. C'est pas toujours le cas, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Oui, ouais, tout à fait.
Deuxièmement, le confort facilite les déplacements. Les surfaces planes et continues, absence d'obstacles, les bancs, les rampes et les accès adaptés. Et finalement, le troisième élément, c'est l'attrait, qui repose sur la combinaison d'éléments physiques et sensoriels, comme la verdure, la lumière et la présence d'activités qui favorisent une expérience agréable pour les usagers. Ces critères bénéficient à tous, mais sont particulièrement essentiels pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Un espace agréable et confortable encourage indéniablement les gens à se déplacer davantage à pied et, bien sûr, à profiter pleinement de la ville, renforçant ainsi l'inclusion sociale et le bien-être. Le parcours piétonnier du parc Safari à Hemmingford, c'est un exemple de développement urbain touristique valorisant la dimension du confort. Les surfaces pavées, planes et l'absence d'obstacles au sol, comme des marches irrégulières ou des pentes abruptes, assurent le confort et la fluidité des déplacements. Pour un usage agréable et sécurisé, il est essentiel d'assurer donc l'homogénéité des surfaces et la régularité des niveaux, ce qui facilite le passage des poussettes, des fauteuils roulants, ainsi que les déplacements des personnes ayant des difficultés de mobilité. La deuxième dimension, la lisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les études sur l'image de la ville se concentrent sur la manière, dont les gens perçoivent leur environnement et s'y orientent. Kevin Lynch, qui lui est urbaniste américain, qui a enseigné au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, et à Harvard, a profondément influencé le design urbain avec ses travaux sur la perception des villes. Ses recherches ont permis d'identifier 5 éléments qui aident les personnes à se repérer dans la ville. Premièrement, les voies, c'est-à-dire les rues, les trottoirs ou les sentiers le long desquels on se déplace. Le deuxième élément, c'est les limites, par exemple les murs, les rivières ou les voies ferrées qui délimitent un espace pouvant être difficile, voire impossible à franchir. Le troisième, c'est les quartiers reconnaissables par leur ambiance, leur fonction ou leur architecture homogène. Le quatrième, les nœuds, c'est ces lieux de passage ou de rencontre comme une place publique, un carrefour ou une gare. Et finalement, le cinquième élément, c'est les points de repère, soit des éléments visibles qui permettent de se situer, comme une tour, un clocher, une enseigne ou même un arbre distinctif. L'esplanade de la place des Maries peut servir à mettre en évidence la dimension de la lisibilité. La conception, organisée autour de marches intégrant une rampe clairement visible depuis le champ de vision du piéton, réduit la confusion et facilite la compréhension des liaisons entre les différents niveaux de l'esplanade. Les piétons peuvent anticiper la continuité de leur parcours, rendant la circulation plus rassurante et agréable. La lisibilité de cette organisation permet un accès pour tous à l'esplanade de la place Ville-Marie. Lorsque limites et repères sont clairement définis, la ville devient plus lisible et accueillante, notamment pour les personnes ayant des difficultés d'orientation ou de repérage. La lisibilité réduit l'anxiété au déplacement à pied dans des environnements complexes et renforce le sentiment de sécurité. La troisième dimension, c'est la clarté géométrique. Les études de la spatialité analysent la forme et la géométrie des espaces urbains pour comprendre comment leur organisation influence les déplacements et les comportements humains. Bill Hillier, architecte britannique et professeur à l'University College London, est connu pour son approche syntaxique, c'est-à-dire une méthode d'analyse des espaces urbains et architecturaux. Ses travaux montrent que les gens se déplacent naturellement le long d'axes clairs et directs. Certaines maladies cognitives, comme la maladie d'Alzheimer ou le trouble cognitif léger lié à l'âge, peuvent affecter mémoire, attention et orientation. Une configuration urbaine géométriquement claire facilite l'orientation de ces personnes et leur permet de se représenter mentalement la figure spatiale de l'espace dans lequel elle déambule. Un autre élément important est l'effet d'enveloppe spatiale déterminé par la continuité des façades, des clôtures ou des alignements de bâtiments qui créent un sentiment d'encadrement et de sécurité. Dans le vieux port, par exemple, l'espace est fréquemment cadré de manière claire, par exemple, sur la rue Saint-Paul, les façades consécutives des bâtiments définissent fortement l'espace, créant une orientation naturelle qui évolue au fil du déplacement. La présence d'une bordure de trottoir basse renforce encore la clarté spatiale et la simplicité du parcours. Alors, lorsqu'on conçoit des espaces publics de qualité dès le départ, ou lorsqu'on revoit les espaces publics, on peut penser en effet à l'esplanade de la place des Maris qui a été complètement refaite, il est possible de répondre aux besoins liés à la motricité, à la vision et à la cognition, sans concevoir l'espace pour un seul type d'usager. Un design réfléchi et inclusif rend donc la ville plus confortable, lisible et sécurisée pour tous, en particulier pour une population vieillissante et, ajoutons, pour toute population confrontée à des défis de mobilité. On invite donc nos municipalités et nos villes à bien repenser les espaces publics, les espaces de déplacement.
Oui, c'est tout un défi.
Tout un défi.
On va aller rapidement en musique, puis on revient pour faire des courtes, brèves infos avec toi.
Blessé, baisé, végété dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. Comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Oh, je pleure surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine. J'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit, je t'aime.
Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal que ça fait pas longtemps. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta valentine.
Collaboration de Decis et Théodora pour la chanson Mélodrama.
Théodora, la grande, grande vedette en France présentement. Hein. Il y a tout un buzz, comme on dit là-bas. Et même, il y a des gens qui disent, là, écoute, je ne suis pas un expert, mais qu'elle va déclasser ou qu'elle a déclassé Aya Nakamura, quand même, qui est une grande star qu'on a vue à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques en France, à Paris, en 2024. Puis là, on retourne à Monique. Alors, Monique, on a des brèves aujourd'hui.
Oui.
On va parler d'ours en peluche.
Oui, C'est des brèves amusantes. Hein. Ça paraît un peu, mon Dieu, frivole, mais peut-être que ça nous fait plaisir aujourd'hui.
Oh, on a besoin de ça. Là. C'est jeudi, on est fatigué, puis l'hiver est long. On a besoin d'un peu d'énergie, puis on a besoin de rire un petit peu.
Exactement. Alors, est-ce que les ours en peluche rapprochent de la nature? Ben, pas autant qu'on le pense, en fait. Alors, il semble que l'ours, l'ourson, en fait, soit le roi des doudous. Mmh. 45,3% des 11 000 personnes entre 3 et 92 ans interrogées dans le cadre d'une série d'études en peluchologie. Eh bien oui, Denis Martin, ça existe.
Des experts en peluchologie, d'accord.
Oui, j'avais jamais lu ce terme, mais voilà, on apprend tous les jours. Alors, les personnes, donc les 11 000 personnes âgées entre 3 et 92 ans possèdent ou ont possédé un nounours, loin devant les lapins, seulement 13%, et les chiens, 7%. C'est beaucoup, c'est pour beaucoup d'enfants, en fait, le tout premier objet transitionnel, celui qui accompagne les premiers attachements, le développement de l'empathie. C'est aussi aujourd'hui un élément fondateur de son lien émotionnel avec le vivant. Mais attention, pour être attachant, ce petit ourson doit être mignon, avoir des traits précis, un museau et un torse large, un pelage épais, un coloris uniforme, de longues pattes avant et de grands yeux. Sauf que, notent les chercheurs, ces traits les écartent beaucoup de la morphologie et des couleurs des 11 espèces d'ours réels ou d'ours réels. Ce qui risque de forger une représentation qui nous éloigne de la réalité écologique au lieu de nous en rapprocher. Ben voilà, notre nounours est confronté à sa réalité de nounours, à celle de l'ours qu'on ne souhaite pas rencontrer en forêt.
Tout à fait. Alors, tu sais, Monique, si tu apportes un sujet comme ça à l'émission, il y a une question qui vient, et je suis très indiscret. As-tu, toi, un ours en peluche?
Ah, mais j'en avais un, petit nounours en peluche, oui. Qui était fait à partir de laine. Il était plutôt atypique, mais je l'ai gardé très longtemps.
Ben, tu me poses pas la question, parce que moi, je peux y répondre.
Oui,
j'en ai un.
Et c'est... Je revisualisais mon petit
J'en ai un. Puis j'étais pour dire, il n'y a pas d'autre côté de la fenêtre ici. J'aime bien taquiner notre Mathieu puis dire mon ours. Non, j'ai un petit ourson en peluche. Et ça me vient de mon papa. Quand papa avait un ours en peluche, puis quand il est mort, ben c'est moi qui en a hérité. Et puis, ben c'est ça, il est chez moi. Et Gustave a un ours en peluche. Par contre, Gustave... Bon, disons qu'il n'est pas très doux avec son ours en peluche. Il manque bien des morceaux jusqu'à maintenant.
Ah oui, ça, Gustave, c'est ton
c'est
chien.
C'est mon chien, oui. C'est mon gros Yorkshire très dangereux. Allez, on va.
Oui. Ah oui, oh là là.
Ben justement, parlant de propriétaires d'animaux domestiques, les propriétaires de chats sont-ils plus généreux?
Alors, qu'en pensez-vous, cher ami?
Ben, j'imagine que oui. Parce que les chats sont tellement exigeants qu'on n'a pas le droit de... On ne peut pas ne pas être généreux.
Bien là, on parle de générosité philanthropique, en fait.
Ah oui?
J'aurais dû ajouter ce terme-là. Ah. Alors, plus que les propriétaires de chiens, c'est le résultat d'une impressionnante data analyse américaine qui portait sur 788 millions de dons individuels qui ont été réalisés entre 2013 et 2022 pour un montant total de 70 milliards de dollars. Alors, les propriétaires de chats ont donné 80 millions de plus que les propriétaires de chiens, et plus fréquemment. Bon, il n'y a pas une grande différence, là, c'est 15 fois contre 13. Avoir un chat était même la quatrième caractéristique la plus fréquente des donateurs après le niveau de revenus, d'études et le sexe, féminin en l'occurrence. Ah. Selon les chercheurs, cela pourrait être lié à l'ouverture d'esprit. Alors, semble-t-il, Denis Martin, que c'est un trait plus fréquent chez les donateurs et chez les propriétaires de chats. Ah. Bon. Ah, est-ce qu'on peut se fier à cette étude?
Ben, je ne sais pas. Moi, j'ai une petite explication aussi parce que c'est quand même mon troisième chien. Et bon, au départ, les chiens, c'est en santé, mais quand ils vieillissent, oh, boy, on n'a plus beaucoup d'argent qui reste pour faire un don parce qu'il faut payer le vétérinaire.
C'est vrai qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'études ou de reportages, en fait, plutôt que d'études, qui ont souligné les frais exorbitants qui sont associés au traitement de nos petits animaux de compagnie.
Ah oui. Maintenant, je pense qu'on touche la porte chez le bureau du vétérinaire. Ça vient de nous coûter quelques centaines de dollars. Bon, OK, on arrête ça. Capsule linguistique. La ville est-elle attractive? Puis là, je pourrais peut-être référer les gens à ta chronique un peu plus tôt. On a utilisé un autre mot que ça.
En fait, attractif ou attractive, ça qualifie ce qui exerce une attraction, ce qui attire. On peut parler donc de la force attractive d'un aimant. Mm-hmm. Au figuré, on peut parler de la puissance attractive du regard. Mais retenons que l'adjectif attrayant qualifie ce qui nous attire en raison de sa beauté ou de son caractère agréable. Ah. Donc, on aurait dû dire, on veut que la ville demeure attrayante.
Comme Montréal est une ville attrayante, et comme beaucoup d'autres villes, et j'irais même jusqu'à dire, et même toi, qui es une personne attrayante.
Ben merci.
Merci beaucoup, Monique. Plaisir de travailler avec toi, puis on se reparle très bientôt.
Ben, je l'espère bien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul, abandonne l'instant.
Patrick Watson, sa belle chanson « Je te laisserai des mots ».
Qui a accumulé 1,2 milliard d'écoutes, ou comme diraient les Français, de streams sur Spotify. Chanson qui a été popularisée pendant la pandémie de COVID-19. Les gens faisaient des vidéos et utilisaient cette chanson un peu pour la nostalgie derrière, et qui a connu un succès faramineux avec « L'été où je suis devenu joli », une série télévisée. Donc, oui, un artiste québécois, c'était la première chanson francophone à atteindre le milliard d'écoutes sur les écoutes, donc, de téléchargement, pas de balado-diffusion. Dans Radio-Canada, 4 mars, imaginez passer 50 ans de votre vie à fuir la lumière du jour comme une menace physique. C'est le combat quotidien qu'a mené le Saskatchewanais Chris Kinard, prisonnier, et là, je vais prendre le temps de le dire, d'une maladie assez peu connue, une maladie rare, la protoporphyrie érythropoïtique. C'est une maladie éthique, pardon, pro-éthique, une maladie rare qui transforme chaque rayon de soleil en une brûlure insupportable. Forcé de vivre dans l'ombre et de travailler de nuit, cet homme a vu son destin basculer radicalement en juin 2025 grâce à une avancée médicale majeure. En participant à un essai clinique mené par la chercheuse des États-Unis, Amy Young, Kress a testé le bitopertin. C'est un traitement expérimental qui agit comme un véritable interrupteur. En seulement 4 jours, ses symptômes ont disparu et pour la première fois de sa vie, il a pu rester plus de 2 heures sur son balcon, savourant une liberté qu'il croyait inaccessible. Ce succès est en phase 3, désormais à l'amène à la vie normale hein, pour des milliers de personnes comme lui qui souffrent de cette maladie. Bon, nous, on va parler de littérature accessible et on va parler de parasport aussi, hein, parce que c'est demain, les Jeux paralympiques qui s'en viennent. Alors, à tout de suite.
Vous pouvez rejoindre.
Vous écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Connu voix sur ton chemin pardon, du film Les Choristes, mais ça a été remixé par Drill.
Drill, oui. Alors, Alpraz et Bruno Coulet. Oui. C'est des... Bruno Coulet, je pense que c'est l'auteur...
Non, vous avez parfaitement raison. C'est Alpraz et Bruno Coulet.
Oui, oui. Bruno Coulet, c'est l'auteur de original, je pense, de cette chanson-là. Je me corrigerai si je me trompe. Mais bon, ça fait toujours partie de ce genre musical que j'aime bien. Hein. J'aime bien les petites versions un peu hip-hop de ses chansons très connues. Puis là, on va faire un saut, je ne sais pas où, parce qu'il n'a pas voulu me le dire. il est quelque part pour nous parler de l'ouverture des Jeux paralympiques. Hein. Ça commence demain, en fait, de parler de ces Jeux en général. Dominique Tremblay, allô?
Bonjour, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va très bien. On te rejoint où?
Ah ben, on a réussi à me sortir de ma tanière habituelle pour ma chronique chez à l'extérieur de la maison. Je suis présentement aux Jeux du Québec, qui est la 60e édition. Ah. Se déroule présentement à Blainville.
Ouais.
On est en plein milieu du deuxième bloc. Et dans le cadre des Jeux du Québec, il y a deux sports paralympiques qui s'y retrouvent. Dans le premier bloc, il y avait le basketball en fauteuil roulant. Et l'équipe du centre du Québec avait gagné la médaille d'or. Et dans le deuxième bloc, il y a une compétition de boccia. Et puis j'ai la fédération professionnelle pour la compétition. On retrouve 10 athlètes de 6 régions dans la compétition. Les médailles vont être données vendredi en fin de journée. Donc, c'est une grosse compétition. Et puis, les compétitions pour les jeunes, les athlètes ont entre 13 et 17 ans. Et c'est la première étape pour peut-être se rendre plus tard aux Jeux paralympiques.
Ben là, je me disais, quand tu m'as écrit ça, je dis, j'espère qu'il n'est pas en train de me dire que cette chance-là est rendue à Milano Cortina. Mais non, alors t'es bel et bien encore au Québec.
C'est encore ça, les sports d'hiver, le ski. Moi, c'est pas mon fort. Je vais laisser ça à d'autres. Je vais regarder ça à la télévision. D'ailleurs, c'est la cérémonie d'ouverture qui débute. La cérémonie va être en après-midi à 14h sur le site Internet de Radio-Canada. C'est Kevin Breton et Geneviève Tardif qui vont faire la description. C'est le début officiel des Jeux, mais il y a quand même des compétitions qui ont commencé depuis hier.
Oui.
La compétition de curling mixte a débuté hier et aussi il y a eu des descentes, des pratiques de descente de ski alpin qui ont aussi eu lieu et les premières médailles vont être données demain matin. C'est Taylor McGregor et le deuxième nom, attendez deux secondes, plan de mémoire ici, Nathalie Wilkie, qui sont les porte-drapeaux du Canada. Et comme durant les Jeux paralympiques, il va y avoir trois endroits qui vont avoir la cérémonie d'ouverture, donc à Milan, à Vérone et aussi à Dilem, qui est dans les montagnes, là, dans le nord de l'Italie. Mais il y aura, à part les porte-drapeaux, il n'y a pas d'autres athlètes canadiens qui vont participer à la cérémonie d'ouverture. Les compétitions débutent de bonne heure le lendemain matin. Il y a même des athlètes là, qui font 6 épreuves en 9 jours. Donc, comme Vérone est à 2 heures de route, et même ça, puis ça finit très, très tard d'habitude, les cérémonies d'ouverture. Donc, les athlètes canadiens ont décidé de se reposer, ce qui est une bonne décision là, parce qu'ils sont pas nécessairement là pour faire la fête. Quoiqu'après les compétitions, je vous le garantis, ils font un peu la fête, mais avant les compétitions, on garde assez tranquille pour s'assurer de gagner des médailles.
Ouais, les Canadiens, donc, les athlètes canadiens et canadiennes ne participeront pas à cette cérémonie d'ouverture. Et officiellement, c'est à cause de ce que tu viens de dire, mais il y a aussi d'autres pays qui boycottent parce qu'on a permis la présence de la Russie et de la Biélorussie. Et ça cause des inconforts avec ce qui se passe en Ukraine. Je pense que c'est les athlètes ukrainiens, les para-athlètes ukrainiens qui ne seraient pas là.
Il y a aussi quelques autres athlètes d'autres pays d'Europe qui ont décidé de passer tout droit là, à la cérémonie d'ouverture. Le Canada, officiellement, les athlètes restent à la maison. Il y a juste les porte-drapeaux qui vont être là.
Ouais.
Et la raison officielle qui a été donnée, c'est pour que les athlètes puissent se reposer pour les compétitions qui commencent le lendemain matin. Ça, c'était la révision officielle, mais ils sont contre la participation quand même là, des athlètes russes et biélorusses. Généralement, la politique et le sport, ça va pas très bien, mais bon. Non,
c'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas bien.
Ça se mélange pas bien, mais comme on est dans une situation particulière, c'est comme ça qui est ça.
Bon, alors donc, la cérémonie, c'est demain, mais il y a déjà des compétitions qui ont commencé. En général, là, on s'attend à quoi pour ces Jeux-là? Puis j'imagine qu'on veut parler donc des athlètes canadiens et québécois.
Oui, on va surtout surveiller deux athlètes canadiens que je vais vous parler. Alexis Guimond, qui fait du ski alpin. Ici, d'ailleurs, le premier entraînement pour lui avait lieu hier. Il a pris le 10e rang de la descente. Il devrait gagner une médaille là, sûrement au super géant. Ça, c'est un son épreuve préférée. Il a gagné le globe de cristal de la Coupe du monde cette année. Il a gagné plusieurs médailles cette année là en descente et en super géant. Il a déjà gagné quelques médailles aux Jeux paralympiques. C'est sa troisième participation. Mais il vise vraiment pour ces Jeux-ci une médaille d'or. Donc, il sera surveillé là, dès demain là, pour les compétitions. Et il y a aussi Vincent Boily que je veux vous parler. Il est en est à ses premiers Jeux paralympiques. C'est un ancien joueur de hockey qui a subi un accident de motoneige tout juste avant de commencer sa carrière au hockey junior majeur. Il avait été repêché par l'Océanique de Rimouski il y a quelques années et a perdu l'usage de une de ses jambes. Donc, s'est tourné vers le para-hockey pour continuer l'amour de son sport. Et en para-hockey, ça va être assez excitant. Encore une fois, là, comme le hockey masculin et le hockey féminin aux Jeux olympiques, on s'attend à une finale entre le Canada et les États-Unis. Et comme chez les femmes, là, les États-Unis ont dominé les matchs entre le Canada et les États-Unis au cours de la saison. On espère que le Canada va prendre sa revanche au para-hockey et peut-être même remonter les performances du Canada pour être sûr que le Canada au moins gagne une médaille d'or en hockey, soit aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques.
Ça serait le fun, en tout cas, on aimerait ça.
Oui, oui.
Toujours des faits cocasses hein, qui arrivent lors de ces grands jeux-là. Il y a quelque chose qui est arrivé au curling, si je comprends bien.
Oui, c'est un peu cocasse ce qui est arrivé. C'était sur le site de Radio-Canada anglais, mais aussi maintenant sur le site de Radio-Canada. Il y a deux pierres de curling qui ont disparu entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Les athlètes souvent cherchent un peu de petits souvenirs à ramener à la maison là, qui sont différents des autres. Par exemple, moi, j'ai déjà ramené une banderole là, d'une compétition internationale. Mais ça a l'air qu'il y a des personnes qui sont parties avec des pierres. Et c'est quand même assez pesant, là, des pierres de curling. On parle de 49 livres.
Ouais.
C'est un peu... on
c'est
peut
un supplément de bagage, en tout cas. Ça coûte cher.
Ouais, c'est ça. On peut pas mettre ça dans son sac à dos. Là. Fait que, je sais pas ce qui est arrivé. Il y a une enquête qui a été lancée par le comité organisateur. On a aussi réussi à commander des pierres qui sont exactes et qui sont les mêmes qui seront utilisées... là. Qui ont été utilisés pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc, tout est quand même correct pour les compétitions. Mais il y a deux pierres de curling là, qui ont disparu. Si jamais on sonne à votre porte pour un cas que vous recevez un colis, ça serait peut-être une pierre de curling. Il faudrait vérifier.
Ouais, j'ai rien commandé chez Amazon, mais là, oups, ça arrive. Je vais quand même revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le boycott par certains pays des cérémonies d'ouverture des Jeux paralympiques. C'est parce que au départ, les athlètes russes et les athlètes biélorusses ont été bannis. C'était pas nécessairement à cause de la guerre en Ukraine, bien que ça fait partie, mais c'était aussi en raison d'abus de consommation ou de drogue,
l'antidopage.
L'antidopage. Alors, juste pour qu'on soit plus clair que ça, alors je vais le spécifier. Oui. Puis je pense que...
Et lors de la dernière Assemblée générale du Comité paralympique international, les membres du comité ont voté en faveur d'accepter les Russes et la Biélorussie back aux compétitions. Là, il y a beaucoup de bruit en arrière. La compétition de voiture va recommencer.
On va te laisser retourner à ça. Puis je pense que tu vas être avec nous presque tous les jours hein, à partir de la semaine prochaine.
Oui, la semaine prochaine, on va parler des Jeux paralympiques.
Parfait. Merci beaucoup, Dominique.
Merci, au revoir.
Puis bon Jeux du Québec en attendant.
Merci, au revoir. Bonne journée.
Poussière d'anthrax qui s'insinue. l'âme se dénuer d'un cœur quand tout est mensonge, qu'il blessé me ronge là, je doutais, je sais, qu'importe la vie m'enseigne, lui dire fuck you.
Mylène Farmer et sa chanson « À tout jamais ».
Oui, on ne prononcera pas les mots qui vont juste avant « À tout jamais » parce que ben, j'aurais des petits problèmes avec peut-être le CRTC, mais en tout cas, je ne sais-t-on jamais. On va parler maintenant d'accessibilité pour les personnes qui lisent parce que selon des données de l'enquête canadienne sur l'incapacité, environ une personne sur dix au pays possède une condition qui limite sa capacité à lire les imprimés traditionnels, ce qui souligne l'importance des formats substituts. On connaît le format DAISY, le braille numérique, etc. Alors, le symposium sur la lecture accessible 2026, ça se déroule très bientôt, le 11 et 12 mars. C'est un événement virtuel bilingue d'envergure pan-canadienne. Et c'est un symposium donc, qui cherche à découvrir comment la technologie et la collaboration humaine peuvent transformer l'accès au savoir. Et nous recevons Geneviève Mangerel, qui est bibliothécaire au service adapté à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui co-organise, donc je parle de la bibliothèque, mais évidemment elle aussi, ce symposium. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, parlons un peu de pourquoi réunir ainsi tout l'écosystème de la littérature ou du livre accessible au Canada.
Alors, c'est important de faire connaître la lecture accessible. Je dois dire d'abord que le symposium s'adresse autant aux personnes qui aiment beaucoup lire et qui présentent une déficience perceptuelle, mm-hmm. mais aussi au personnel des bibliothèques qui
ah, oui.
vont être en mesure de les appuyer et de leur donner accès au format accessible.
Alors, pourquoi réunir tout ce monde-là?
L'idée, c'est d'informer les gens. Donc, en fait, c'est de... Les objectifs sont les suivants, de permettre aux participantes et aux participants de mieux comprendre la lecture et les formats accessibles, de partager les expériences des lecteurs présentant une déficience perceptuelle, d'accroître les connaissances auprès des bibliothèques, des fournisseurs de contenu, des éditeurs, des fournisseurs de technologies et des lecteurs, et de permettre au personnel des bibliothèques et aux lecteurs présentant une déficience perceptuelle d'explorer les divers outils, formats et services.
On parle beaucoup, quand on parle de lecture pour les personnes avec une déficience visuelle, on parle du livre audio. Ça, c'est un des éléments, j'imagine, mais il y en a d'autres.
Ça, c'est un des éléments. Donc, je dois d'abord vous donner la définition de ce que c'est que la déficience perceptuelle.
D'accord.
On parle de déficience perceptuelle quand une personne a une incapacité ou de la difficulté à lire l'imprimé, que ce soit donc à cause d'une déficience visuelle, mais ça peut être aussi d'une incapacité à tenir ou à manipuler un livre.
Mm-hmm.
ou un trouble d'apprentissage. Ça aussi, c'est inclus dans la définition de la déficience perceptuelle, la dyslexie, par exemple. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, une personne qui présente une incapacité perceptuelle et qui vit au Québec va pouvoir devenir membre du SQLA, le Service québécois du livre adapté. Je m'excuse pour tous les acronymes que je vais utiliser dans ça. Oh,
en autant qu'on prenne le temps de dire ce que c'est pour qu'on puisse se comprendre. Donc,
prendrai le temps. Donc.
Sinon, moi, j'interromprai. C'est mon boulot de faire ça.
C'est parfait.
Parfait. Donc, revenons donc. On a défini qui sont ces personnes qui peuvent avoir ces besoins-là et quelles sortes de formats on peut leur offrir. J'ai parlé du livre audio, mais il y en a d'autres, oui. Là.
Il y en a d'autres. Donc, le livre audio, le SQLA en a autant en format CD que par téléchargement, mm-hmm. parce que ce n'est pas tout le monde qui s'est mis encore à l'informatique.
Oui.
Nous avons aussi des livres en braille. Et les livres en braille, nous en avons en papier, mais nous en avons aussi en braille numérique téléchargeable.
Et ça, le braille numérique, c'est un dispositif qu'on a sur son ordinateur qui permet de lire, hein, c'est ça?
C'est ça. Donc, avec une plage braille, qu'on appelle aussi afficheur braille, oui. On peut lire le braille numérique. Mmh. On peut aussi lire les documents Word ou les pages web, par exemple, avec ce dispositif.
Ah oui, c'est génial.
C'est génial. C'est un des dispositifs, justement, dont on va faire la démonstration dans le symposium.
Ah oui. Alors, les nouvelles technologies, ça aide.
Ça aide énormément. En fait, ça aide, mais c'est même primordial. Certaines personnes ont absolument besoin des nouvelles technologies pour accéder à la lecture.
Alors, justement, au-delà de ces technologies-là, il faut aussi savoir comment s'en servir, savoir si ça fonctionne bien. Et c'est là qu'entrent en jeu les personnes usagères qui vont participer à ce symposium.
Exactement. Donc, le premier jour du symposium, nous aurons des démonstrations de technologies d'assistance qui sont faites par des lecteurs et des lectrices vivant avec une déficience perceptuelle. Chaque personne parlera de son expérience en tant que lecteur et présentera une des technologies qu'il ou elle utilise pour lire.
Donc, et là, à partir de ça, on va aussi découvrir de nouvelles technologies parce que ça n'arrête pas. On n'arrête pas la science, comme dirait l'autre.
Absolument. Et je vais vous donner un petit scoop, mais sans trop de détails. Il y a une des personnes qui va faire la démonstration des lunettes Meta.
Ah oui! Alors, ces fameuses lunettes-là, qui permettent à faire la réalité augmentée et tout ça. Donc, donc, ça
peut aider. C'est
fascinant. Ah, mon Dieu, oui. Il va peut-être falloir faire une autre entrevue pour en parler quand ça sera temps d'en parler, n'est-ce pas?
Absolument.
Le symposium, donc, permet donc à tout ce monde-là de se regrouper, de voir ce qui est disponible. Présentement, quelqu'un qui veut lire un livre, là, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais lire un de mes romans.
Oui.
Et a une déficience de perceptuelle, comment elle peut avoir trouvé, comment ça se fait? Là, on peut parler de la grande bibliothèque, mais il y a d'autres bibliothèques en région. Comment on peut trouver ces instruments-là? Il faut le demander.
Alors, il faut dire que pour ce qui est du livre adapté,
oui.
Au Québec, c'est centralisé. Donc, on n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque. Il suffit de s'abonner au SQLA, au Service québécois du livre adapté,
mm-hmm.
qui est donc géré par BANQ. Et à ce moment-là, s'il s'agit d'un format papier ou d'un CD, la personne va la recevoir gratuitement à la maison.
Ah ouais.
Même à Blanc-Sablon, même à l'autre bout du Québec. Pas besoin d'être en ville, pas besoin d'aller à la bibliothèque. Et sinon aussi, la personne aura accès au téléchargement, donc également partout au Québec.
Et donc, si quelqu'un veut participer à ce symposium, parce que je veux juste m'imaginer qu'il y a des gens qui entendent ça et n'étaient pas au courant que ça existe, est-ce que c'est trop tard? On peut encore y participer?
Absolument, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière seconde. D'ailleurs, c'est gratuit.
Donc on aime ça.
Profitez-en. Et même, ce sera disponible après, mais il faut quand même vous inscrire avant pour avoir accès aux enregistrements après.
Et on fait ça comment?
On va sur le site web. L'URL est un peu long, mais je vais vous le donner. Donc, on va sur le site du CAEB, le bibliocaeb.ca/accessible-reading-symposium-2026.
On va essayer de le mettre en ligne, nous, sur quand on va publier l'émission, pour que les gens puissent le trouver aussi sur notre site ici à Canalem.
Merci.
Et alors, Geneviève, toi, personnellement, Quel est ton format? J'imagine que tu connais bien beaucoup de ces formats-là. Quel est le format que tu trouves le plus utile, qui fonctionne le mieux?
Je vais vous dire, en fait, ça dépend vraiment de chaque personne.
Oui, ça
dépend des préférences de chaque personne. C'est pas tout le monde, par exemple, qui lit le braille.
Mm-hmm. Le braille, c'est pas facile. Il faut que les gens passent beaucoup de temps à l'apprendre. J'ai découvert ça. Je pensais que c'était simple, mais c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça. Et les personnes qui ne l'ont pas appris dans l'enfance, mais qui ont perdu la vision plus tard, ne vont pas nécessairement l'apprendre.
Mm-hmm.
Donc, on dit qu'à peu près 10 à 15% des personnes avec une déficience visuelle lisent le braille.
OK. Fait qu'autrement, il y a d'autres façons de lire. Donc, il y a des lecteurs audio qu'on peut utiliser.
Il y a des lecteurs audio. Pour le livre audio, il y a les appareils Victor de Humanware qui sont très, très bien faits. Et il y a aussi une application spécialisée que j'aime bien qu'on peut mettre sur un téléphone ou sur un PC qui s'appelle Easy Reader.
Oui, je connais. Oui, oui. De toute façon, à Canalem, ici, on a quand même vu et voix, puis il se fait beaucoup de livres audio ici qui sont des vraies personnes qui les lisent. Et moi, je vais vous dire que j'utilise de temps en temps des livres audio, même si je n'ai pas une déficience visuelle ou perceptuelle, mais c'est le fun de se faire lire un livre aussi.
C'est le fun. Et puis, on peut lire en faisant son jogging, par exemple,
oui,
ou en prenant une marche, en prenant le soleil, voilà.
Oui, moi, j'ai lu La traversée du siècle de Michel Tremblay. J'avais mon livre et j'avais la lecture sur Radio-Canada Audio. C'était extraordinaire de me faire lire ça pendant que je lisais. Écoute, Geneviève Mangerel, on va vous souhaiter un bon succès avec ce symposium. Peut-être faudra nous revenir pour nous parler de ce nouvel appareil, nouveau dispositif. On aimerait peut-être ça le découvrir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De vous rappeler que ce week-end, ça va se réchauffer pas mal partout dans l'est du pays. On va aller dans les 10, 12, 13 degrés. Ça fait la première fois depuis le mois de novembre que ça nous arrive. Malheureusement, par contre, on annonce aussi de la pluie qui vient avec ça. Alors, c'est partout dans l'est du pays. Dans l'ouest aussi, ça va se réchauffer. Il fait plus froid là-bas. Et puis, sur la côte ouest, c'est de la pluie aujourd'hui. C'est pas nouveau. Et je dois vous rappeler, ce week-end, on va avancer l'heure. Donc, vous perdez une heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. Et si vous nous écoutez en Colombie-Britannique, c'est la dernière fois que vous changez d'heure parce que la province va rester à l'heure avancée pour toujours. À tout jamais, comme disait Mylène Farmer tout à l'heure. Mais moi, j'ai le temps de vous dire un gros merci tout le monde d'avoir été là cette semaine. Je serai de retour lundi et après ça, Hélène Denis sera de retour à compter de mardi à la barre de cette émission. Et je la remercie parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans la recherche. Et j'aimerais aussi remercier Mathieu Tessier à la mise en onde. Et je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à lundi prochain.